J'ai passé un été formidable, je ne sais pas vous, mais moi c'était extraordinaire. J'ai entendu des gens conscients et responsables pleurnicher en permanence sur la fin du monde, les mêmes qui passent leur vie sur le numérique dont on sait qu'il est amené à représenter bientôt 10% de la pollution d'origine humaine. J'ai subi mon cours de morale qui m'a fait prendre conscience que quand j'allumais une grillade pour des amis dans le jardin, je me comportais comme un vulgaire mâle blanc colonialiste et misogyne. Et toujours dans mon jardin, on m'a expliqué que si un moustique tigre agressait douloureusement mes chevilles, il me fallait l'inviter à me piquer autant que possible, car le redoutable insecte n'était autre qu'une gentille maman qui allait nourrir sa descendance. Bref, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul credo, une seule religion, un seul rite, l'écologisme, je dis bien écologisme, et que cette religion philosophie allait régler et imposer toutes les normes de ma vie, mes déplacements, ma durée de douche, la température de son eau, ma nourriture, mon rapport aux autres. Je suis en total confort, je n'ai plus à réfléchir, à exister par moi-même, je n'ai qu'à obéir. Mais je vous livre quand même, chers auditeurs, une citation d'un écrivain qui a vécu un été nettement moins bon que le mien, Salman Rushdie, qui écrit « Lorsque nous comprimons notre personnalité dans le corset d'une pensée unique, alors il nous devient plus facile de voir en l'autre un ennemi. » 15 on the Rock, vous le savez désormais, ce sont les 15 meilleures années du rock et du hard entre 1968 et 1983. Pourquoi ces deux charnières dans l'histoire du rock ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant 68, on est plutôt sur une musique pop, pensez aux Beatles, folk, avec pour les États-Unis les deux idoles des années 60, Judy Collins et John Baez, ou encore du blues remasterisé, notamment avec les Stones. Mais à la fin des années 60, sortent les premiers albums de hard, un rock personnalisé, durci, avec bien sûr Led Zepp, Jeff Beck ou Hendrix. À partir de 83, avec l'émergence de Metallica, Venom ou encore Slayer, le rock tourne définitivement une page. C'est l'aboutissement du speed metal, du thrash metal, un hard très accéléré et beaucoup plus lourd. Alors, embrassons toute cette histoire et faisons le grand écart. La pierre angulaire, c'est Hendrix, en 68, avec Electric Ladyland, dont j'extrais Voodoo Child, longue impro sur un blues de plus de 15 minutes. Pour des questions de durée de l'émission, on est contraint d'en raccourcir le format. Et puis, tout au bout de notre époque, ce qu'est devenu le rock avec l'album de Slayer, Show No Mercy, paru en 83, qui célèbre l'avènement du thrash metal. Alors, thrash, en anglais, c'est le synonyme, c'est la traduction, c'est frapper, rosser. Et c'est bien le but de cette formation californienne. Je vous passe les deux thèmes à la suite pour bien mesurer l'évolution du rock sur ces 15 années de 15 on the Rock.
Right there. Well, set me on a eagle's way. Took me past the outskirts of infinity, and when he brought me back, he gave me Venus, which is green.
Vous avez bien senti avec Slayer qu'à partir de 83, la planète Hard Rock commence à devenir difficilement habitable. Auparavant, Hendrix, dans l'improvisation studio sur Voodoo Child, avait invité deux potes, Jack Cassady de Jefferson Airplane à la basse et au clavier Steve Winwood de Traffic. Alors, autre musicien qui en 68 a contribué à l'émergence du rock, ce coup-ci en Angleterre, c'est le génial touche-à-tout Jeff Beck. Il sort cette même année le 33 tours Blackola avec Ron Wood, futur Stones, à la basse et Rod Stewart au chant. On est encore très proche des racines blues, mais en triturant les sons des guitares et des amplis, très inspiré, Beck sera un visionnaire qui participe à la mise en place d'un rock très novateur. Jugez-en plutôt avec ce Jeff Beck Band, en exergue à ce disque de 68, Beck écrit sur la pochette, je le cite, « Quand on a fait cet album, on a mis l'accent sur une musique plus heavy. À vous de décider si vous trouvez dans un coin de votre tête une place pour cette musique. » C'est donc Beck, Ron Wood et Rod Stewart avec All Shook Up, le fameux thème enregistré par Presley en 57, ici repris 11 ans plus tard. Le hard ne serait pas tout à fait le hard sans les instruments mythiques de ces années-là, et notamment les batteries Pearl. Peu de gens savent qu'elles sont nées juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans un tout petit atelier de la banlieue de Tokyo, avant d'être jouées par les plus grands. Les guitares Fender, bien sûr, et puis un instrument de légende, la Gibson Les Paul, dont on célèbre cette année le 70e anniversaire. Son inventeur s'appelle Lester Paulfus, donc ça devient Les Paul en abrégé. C'est un ingénieur de génie qui crée donc cet objet, comme il a inventé aussi l'enregistrement multipiste. En 52, donc, sort la première Les Paul, tout d'abord pour viser les solistes de jazz. Puis cette guitare sera détournée vers le blues, puis le rhythm and blues, et elle finit chez les rockers et dans le reggae. Dans le rock, elle démarre surtout sous les doigts de Keith Richards, mais ensuite de Clapton, et plus encore chez Jimmy Page avec Led Zeppelin. Pour un instrument de l'époque, si vous allez aux enchères, vous allez mettre à peu près 300 000 euros. Citons encore comme Guitar Heroes, Peter Frampton avec Humble Pie, Leslie West pour Mountain, et surtout Neil Young, qui ne joue quasi exclusivement qu'avec une Les Paul. Alors, hommage à cet instrument, qui a cette année 78 ans, c'est notre hymne du mois, Rock'n'Roll, par Led Zepp et Jimmy Page sur sa Les Paul, le thème tiré du quatrième album du groupe, paru en 71. Pour être complet sur la Gibson Les Pauls, je signale, si vous passez par Montluçon, une exposition qui lui est entièrement dédiée. Donc c'est dans l'Allier jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle est intitulée Les Pauls, le son du rock à 70 ans. C'est au Musée Populaire de Montluçon donc. Alors après notre séance mensuelle hymne du rock par Led Zepp, je vous propose à présent notre moment de détente avec le slow rock. Des thèmes souvent très romantiques et surprenants de la part de rockers virils et machos qui se fichent de la morale et de la bien-pensance comme d'une guigne. Et là, j'ai choisi des métalleux très hard, Judas Priest. Alors vous prononcez bien, s'il vous plaît, Priest et non Priest, comme on l'entend toujours dans les bouches françaises. Un extrait du superbe vinyle Sad Wings of Destiny, sorti en 77, dans lequel il n'y a strictement rien à jeter. Mais au sein duquel on trouve une facette inattendue du groupe, avec ce morceau très soft rock qui détonne, un morceau piano-voix. C'est vraiment un ovni dans leur répertoire. C'est notre séquence slow rock, Judas Priest avec Epitaph, enregistré en 1977. Et puis tout au long de cette troisième saison de Fifteen on the Rock, dont je rappelle que vous profitez de l'exclusivité de diffusion sur Radio MDM, je vous amènerai tous les mois dans les États du Sud américain à la découverte du rock sudiste et de ses meilleurs représentants, parmi eux Point Blank, Lynyrd Skynyrd, 30th Special, Blackfoot et plein d'autres. Le rock sudiste, c'est un savant mélange de musicalité, de sensualité, de chaleur, avec des voix souvent remarquables et des line-up à trois guitares. Cette structure permet des crescendo avec des solos à répétition et les guitares qui jouent à la tierce ou à la quinte pour ce qu'on appelle le son Dixie de ce rock américain. Aujourd'hui, on écoute Molly Hatchet, un groupe de Jacksonville en Floride qui sort son premier 33 tours en 78. Archétype du rock sudiste, Il joue à trois guitares et délivre un hard boogie ravageur très connoté. Voyez plutôt ce thème, Gator Country, c'est donc notre séance rock sudiste, Molly Hatchett en 1978.
Came ramble on back to Jones.
Pour l'anecdote, Molly Hatchet fait référence à une jeune femme, Molly, qui au XVIIe siècle, dans la ville de Salem, avait le goût de décapiter ses amants à la hachette. Alors j'appelle donc officiellement tous les hommes à notre écoute aujourd'hui à se réunir pour dénoncer en boucle tous les homicides et toutes les violences conjugales dont ils sont victimes de la part de leur conjointe, et ce dans un souci de parité et de parfaite égalité des sexes. Tiens, restons aux États-Unis pour la découverte d'un vrai guitar hero, Ted Nugent, qui détonne dans cette décennie des années 70 pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est rarissime à l'époque, son hostilité pour toutes les substances planantes et addictives qui se consommaient alors au kilo, mais aussi par le choix d'un son pourtant très hard grâce à une guitare Gibson Birdland, une guitare de jazz avec une caisse de résonance. C'est le seul à jouer du hard, à ma connaissance, sur une telle guitare. Mais le son est très lourd, ça fonctionne parfaitement. Alors écoutez ce thème, Hard as Nails, tiré de son album de 1980. Un grand succès outre-Atlantique, l'album s'appelle Scream Dream. Voilà le son d'une guitare jazz avec tous les effets des pédales pour le hard. On continue sur Radio MDM avec François pour l'émission Fifteen on the Rock, notre balade dans le rock entre 1968 et 1983. On arrive à présent en 1981 avec le groupe new-yorkais Blue Oyster Cult qui publie cette année-là l'album Fire of Unknown Origin qui inclut un thème qui devient immédiatement un single aux États-Unis au mois d'août. Le groupe fait une synthèse parfaite entre hard, psyché, heavy metal sur des paroles souvent à connotation science-fiction, parfois signées Patti Smith ou encore par l'écrivain anglais de science-fiction Michael Moorcock. Chaque mois, dans 15, je vous passerai un live parce que c'est sur scène que les groupes sont vraiment eux-mêmes et connectent complètement avec leurs fans. C'est donc notre séquence live avec le Blue Oyster Cult, un thème de 1981, Burning for You.
All right, Buck sings this one, here it comes.
Yeah.
Et puis pour terminer cette heure que nous partageons, on va retrouver notre rubrique des pépites oubliées. Des morceaux souvent excellents, de groupes non moins bons, qui ont marqué leur époque, et puis qui aussitôt ont sombré dans les oubliettes de l'histoire du rock. Parfois, ces groupes ont muté et ont rencontré le succès dans un autre line-up ou sous un autre nom. Alors c'est exactement le cas pour les Irlandais de Skid Row. Skid Row se forme en août 67 et son chanteur n'est autre à l'époque que Phil Lynott qui a fondé Thin Lizzy. Au départ de Lynott, la bande signe chez CBS en 70. À sa tête, on trouve le leader chanteur bassiste Brendan Shields. Il y a bien sûr un batteur et puis surtout un tout jeune guitariste qui n'est d'autre que Gary Moore qui ira lui aussi rejoindre Thin Lizzy. Skid Row joue pour l'époque un hard rock puissant et musical. Leur premier LP s'intitule Skin, il marche très bien en Angleterre en 70, mais leur second, 34 Hours, 34 heures parce qu'il n'avait été enregistré en studio que sur la durée de 34 heures, cet album donc reçoit un accueil mitigé. Alors fin 71, déçu, Gary Moore quitte le groupe, ce qui sonne le glas de la bande. On retrouve avec plaisir Skid Row et son rock inspiré au début des années 70, un trio dont quasiment personne ne se souvient aujourd'hui. J'ai choisi pour vous l'excellent thème « Go, I'm never gonna let you ». 15 on the Rock est terminé. On entame grâce à vous notre troisième année de diffusion. C'était François au micro, assisté de l'excellent Pierre-Alain à la technique. Restez-nous fidèles sur Radio MDM. Écoutez 15 on the Rock. Je vous le dis, mes amis, vous méritez mieux que Louan et Vianney. Salut les copains.
Do what they can stop me. Never gonna let you go. let you go. I can't let you go. Go. Can't let you, let you go. We'll be right back.